France Culture. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
Les JO d'hiver ont-ils encore un avenir? Alors que les Jeux Olympiques de Milano-Cortina 2026 se déroulent en Italie et que la France accueillera les JO d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises, la question de la durabilité de ces événements et de la capacité des villes à les organiser est plus que jamais posée. Avec nous, trois invités pour questionner de tels événements mondiaux et regarder du côté des transformations possibles de la montagne. Guillaume Desmures, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain et conférencier, spécialiste de la montagne, auteur notamment d'une histoire du ski. On peut aussi mentionner votre livre Pour la montagne, deux livres édités chez Glénat, et sans oublier Le crépuscule des jeux, paru chez Paulsen. Fiona Mill, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante en prospective auprès des collectivités locales en résilience industrielle et territoriale et présidente de Mountain Wilderness France, autrice du livre Réinventons la montagne, Alpes 2030, un autre imaginaire est possible, un livre paru aux éditions Faubourg. Et avec nous également Eric Adamkiewicz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en management du sport et développement territorial à l'Université de Toulouse, ancien directeur général des services de l'Office de tourisme des Arcs Bourg-Saint-Maurice. Vous avez d'autres fonctions occupées précédemment. On peut peut-être dire que vous avez été aussi directeur des sports de la ville de Grenoble. Merci à tous les trois. Bienvenue dans le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes en partenariat toujours, bien sûr, avec le journal Le Monde. Préparez l'émission par Célestine Babinet avec la collaboration de Aurélie Marsay, Vanessa Chang, Anne de Lavaux-Delina et Sophie Cheblin de la documentation de Radio France. Émission toujours réalisée aussi par l'excellente Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Élise Le.
Regardez, là-bas on voit le tracé de la nouvelle piste. Ces zones abritaient en fait 500 mélèzes. C'était une grande forêt d'arbres antiques, des mélèzes âgés de 150 à 200 ans. Ils ont tous été abattus. Un sacrilège. C'était des arbres monumentaux. Et aujourd'hui, on a perdu ce grand patrimoine.
Pour accueillir les JO, près de 60 hectares de sol ont été aménagés. Une transformation souvent irréversible qui fragilise la montagne. L'été dernier, dans ce chantier d'une télécabine, un glissement de terrain a créé une fissure de 15 mètres dans le sol.
La faille est là-bas au fond. Nous sommes sur une zone de glissement de terrain, une zone historiquement très fragile du point de vue géologique. C'est un terrain de pierre karstique typique des Dolomites, une zone d'éboulement dans laquelle nous savons que le terrain se déplace vers la vallée d'environ 2 cm chaque année.
Reportage diffusé sur France 24 le 5 janvier 2026. Depuis quelques années, l'organisation de grands événements sportifs internationaux questionne sur le plan environnemental et parmi eux, les JO d'hiver. En guise d'introduction, faisons peut-être tout d'abord un petit état des lieux des territoires de montagne. La montagne, une des sentinelles du climat. Qu'avez-vous repéré les uns les autres ces dernières années comme évolution? Qui veut commencer? Guillaume Desmures.
Eh ben, la première évolution, c'est le réchauffement des Alpes. On constate depuis 50, 60 ans que, en Savoie, en Haute-Savoie, on a des augmentations de température moyenne de 2,5 à 2,7 degrés. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin du double du reste du pays. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, en montagne, on voit vraiment de façon très sévère et très pointue les effets du nouveau régime climatique. Le réchauffement, bien sûr, mais aussi les phénomènes climatiques extrêmes, les pluies torrentielles, les sécheresses. En 2022, il y a eu un grand nombre d'arrêtés sécheresses, une période de crise pour l'eau. La fonte des glaciers, bien évidemment, c'est plus qu'une fonte, c'est la disparition programmée, annoncée des glaciers. La fonte du permafrost, qui est ce ciment qui tient la montagne au-dessus de 3000 mètres et qui provoque des éboulements. Les glaciers qui fondent créent des lacs sous-glaciaires, qui gonflent et ensuite qui rompent brutalement, qui font peser une menace sur certaines vallées.
Et donc sur certains villages aussi.
Et comme la Bérarde qui a été rayée de la carte. Oui. Donc tout ça fait que les montagnards sont sur le front, en fait, du nouveau régime climatique.
Et puis, baisse d'enneigement, bien sûr, des stations de ski qui sont de plus en plus à la peine, celles de basse et moyenne altitude. Fiona Mill.
Oui, le changement climatique en montagne, il est visible à l'œil nu, il est perceptible au quotidien. Les Alpes, elles ont déjà perdu un mois d'enneigement. Et si je prends l'exemple chez moi, je vis dans le massif de Belledonne. Aujourd'hui, il pleut jusqu'à 2100 mètres, c'est-à-dire le haut de la station de ski de Champs-Rousse. Or, on est en pleine période de vacances en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc bah là, c'est directement l'économie du ski qui est impactée. Donc bien évidemment, quand on pense changement climatique, on pense à cet effet sur cette économie et cette industrie du ski, mais c'est aussi des impacts sur plein d'autres activités économiques dans les territoires de montagne, bien évidemment l'agriculture. Guillaume parlait des sécheresses. Si on sort des Alpes et qu'on va par exemple dans les Pyrénées et les Pyrénées-Orientales, en effet, la sécheresse qui a frappé a fortement impacté le milieu agricole. Donc aujourd'hui, on doit adapter notre agriculture, notre pastoralisme à ces évolutions qui sont pas lentes, mais qui sont brutales. Il y a cette brutalité du changement climatique en montagne. Et puis, en effet, il y a cette question de l'habitabilité. C'est pas juste résumer les impacts du changement climatique sur notre économie touristique ou même sur notre économie, c'est sur nos vies au quotidien, avec en effet des hameaux qui se font rayer de la carte, avec la tempête Alex aussi, qui avait quand même profondément bouleversé, marqué les habitants de la Vésubie, de la Roya, dans les Pyrénées également. Et donc, aujourd'hui, il se pose la question, non pas seulement de comment on va skier demain en montagne, mais comment on va vivre dans ces territoires qui sont, oui, en première ligne du changement climatique.
Oui, et des territoires qui se dépeuplent, hein, faute de logements abordables aussi, qui regorge de lits froids, c'est-à-dire d'habitations secondaires occupées moins de 4 semaines, je crois, par an, hein, c'est ça, on appelle les lits froids, ces conditions-là. Ça représente quand même en moyenne 50% des logements, en sachant que les logements secondaires représentent en général 75 à 90% du logement total. Quand on a ces chiffres-là, effectivement, ça fait réfléchir. Et on imagine, et on le voit hein, dans les stations qui sont à la peine, l'usage de canons à neige pour une neige soupe, hein, on peut dire. Donc, pas forcément idéal pour les amateurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que il y a de moins en moins de villes capables d'organiser des JO d'hiver et encore plus avec de la vraie neige? Éric Adamkiewicz.
Alors, la question de la vraie neige, elle se pose pas tellement, puisqu'en fait, les sportifs et les fédérations internationales préfèrent la neige de culture, parce qu'elle est plus dure et qu'elle permet aux athlètes d'être tous dans les mêmes conditions. Alors, c'est un peu paradoxal, mais plus ils ont de la neige
travaillée,
culture ou artificielle, plus ils sont contents et ils adorent skier sur la glace. C'est un paradoxe. Il y a une étude européenne qui a montré que en 2100, 90% des stations européennes de montagne risquent de fermer. Alors je dis risque parce que c'est la question du délai. C'est-à-dire que pour l'instant, les études se projettent en 2100.
Oui.
Et si je reprends les propos de Mathieu de Chavannes, qui est le directeur général de la Compagnie du Mont-Blanc lors d'une table ronde il y a 2 ans, il avait évoqué le fait que les projections les plus pessimistes de la Compagnie du Mont-Blanc concernant le glacier du Mont-Blanc, c'était que la perte d'épaisseur, ils étaient sur une épaisseur, les prévisions les plus pessimistes étaient 3 mètres, or ils étaient déjà à 5 mètres, c'est-à-dire que leurs prévisions les plus pessimistes étaient déjà explosées, selon sa propre formule. Donc le réchauffement climatique va de plus en plus vite, et les conséquences, on ne les maîtrise pas aujourd'hui, et par rapport aux grandes manifestations, il se pose déjà la question de savoir si on va avoir les mêmes sites pour les Jeux Olympiques d'hiver. Certains évoquent le fait que Sapporo serait par exemple une destination qui serait la mieux enneigée.
Voire même la seule, moi c'est ce que j'ai cru
Absolument.
Lire,
hein, sauf
d'ici 2050.
Sauf que si la question c'est on va continuer d'utiliser la neige de culture, et donc l'utiliser l'eau, ça pose d'autres problèmes.
Et donc d'ici 2050, moi j'ai lu que sur 19 villes hein, qui ont accueilli les JO d'hiver entre 1924 et 2010, seules 10 voire 11, allez, pourrait encore le faire d'ici 2050. On est quand même dans des situations alarmantes. Et du coup, on voit aussi des villes retirer leur candidature. Guillaume Desmures.
Et c'est là la raison de cette candidature des JO 2030, qui au début était une candidature double de la région PACA et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Deux candidatures à des degrés de maturité d'ailleurs très différentes. Et puis le CIO est venu les voir en disant écoutez, on n'a personne pour 2030, Salt Lake City se positionne pour 2034. Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, eux, étaient plutôt prêts pour 2038. Et le CIO leur dit, allez-y, vous les aurez si vous vous présentez, puisqu'on n'a personne d'autre. Donc ça explique la rapidité avec laquelle cette candidature s'est produite, et puis surtout l'absence de dossier. Il n'y a pas de dossier de candidature aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de dossier de candidature officiel accessible, publié par la France. Donc ça explique pourquoi c'est allé aussi vite et dans une telle opacité.
Et alors, vous parlez de l'opacité, mais en même temps, vous nous donnez beaucoup de choses à comprendre dans vos livres, Guillaume Desmurs. Vous parlez de Salt Lake City, candidate, pas prête pour 2030. Remarquez, les Alpes françaises n'étaient pas forcément prêtes non plus pour 2030. Mais il y a aussi des gros intérêts, juteux de droits télévision qui peuvent jouer, puisque les Américains ont été sélectionnés pour les JO d'hiver en 2028, et qu'il y a aussi, pour le CIO, des questions de contrat de droits télé avec NBC notamment, ou d'autres chaînes américaines, à s'assurer après 2032. Et donc, en donnant les JO d'hiver en 2030, ensuite, les droits télé n'étaient plus vraiment garantis.
C'est une autre raison. Il ne faut pas oublier que la rentrée principale d'argent du CIO, ce sont les droits de transmission télé. Donc, à la lueur de ça, gardons à l'esprit que les Jeux Olympiques, c'est une marque déposée qui appartient au CIO. CIO qui est une association à but non lucratif. Vous voyez pas les guillemets que je fais, mais vous les avez compris.
Oui.
Basée en Suisse, qui est défiscalisée, qui n'a aucun organisme indépendant de surveillance, donc qui fonctionne dans une totale impunité et qui nomme ses membres par cooptation. Ce CIO possède cette marque, les Jeux Olympiques, et tous les 4 ans, tous les 4 ans pour les Jeux d'hiver et pour les Jeux d'été, il en cède le droit à un pays d'utiliser cette marque, et c'est extrêmement contrôlé, c'est extrêmement strict, et donc ça fait l'objet de contrats, le contrat hôte, voilà. Et l'objectif du CIO, c'est d'organiser un joli spectacle pour faire de la retransmission télé. C'est ça son objectif. Le COJO, lui, c'est le comité d'organisation qui doit délivrer, organiser ce spectacle sportif. Point. Il ne faut pas attendre du CIO ou du COJO une réflexion stratégique de long terme sur la transition de la montagne, sur l'adaptation de la montagne, sur des investissements, du développement territorial. Ça n'est pas leur sujet.
Éric Adamkiewicz, sur ces questions-là, en quoi les Jeux Olympiques d'hiver sont devenus problématiques ?
Le problème, c'est que sur la question des candidatures, avant les pays se battaient. Alors, pour 2030, la Suède avait une candidature qui a été écartée volontairement par le CIO pour des problèmes de personnes. La Suisse a candidaté au même moment que les Français, de façon surprise, en juillet 2023. Mais on était vraiment dans des candidatures surprises et bricolées. La preuve, le dossier français aujourd'hui, il est pas achevé. Et puis il est encore moins achevé maintenant que le directeur général a été débarqué. Mais on est dans une situation où les Jeux ne font plus rêver les destinations, enfin certaines, parce que on s'est rendu compte que il y avait des coûts. Grenoble, il a fallu 30 ans pour absorber le coût de Grenoble. Et encore, il faut avoir à l'esprit qu'on était pendant les 30 Glorieuses. C'est-à-dire que le modèle économique tournait à plein régime. En 92, les Jeux d'Albertville ont été déficitaires. Il y a eu un bilan économique négatif. Et Albertville a vu son niveau d'imposition augmenter de 40% pendant 18 ans.
Donc les citoyens payent la facture.
La facture est lourde. Et certaines collectivités ou certaines villes hautes, lorsqu'ils ont fait des référendums, ce qui n'a pas été le cas en France, à chaque fois qu'il y a eu des référendums, les référendums ont été négatifs. L'exception serait en ce moment en Allemagne, puisque un mini-référendum a été fait et des Allemands seraient d'accord pour des Jeux Olympiques d'été. Mais on va attendre la suite.
Fiona Mill.
Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais réagir. La première, c'est cette question de l'artifice. En fait, en effet, ces Jeux d'hiver, ils font du mal au sport, ils font du mal aux montagnes, parce qu'ils les enferment véritablement dans une approche très artificielle de ces territoires. Et la neige artificielle est vraiment quelque chose d'intéressant à regarder de plus près. Je pense à vos confrères du Parisien. Ils ont fait un article la semaine dernière en disant « Malheur, il a neigé à Cortina, il a fallu enlever la neige naturelle. » Et pour pouvoir skier sur la neige artificielle. ça en dit quand même long. Ça en dit qu'on est en train de se demander quelles sont les villes qui pourront accueillir demain les Jeux, mais en fait, on ne s'intéresse même plus aux conditions naturelles, parce que quand on a la magie de la neige qui tombe, on voit ça comme une contrainte. Et pour moi, c'est vraiment un symbole de cet artifice de ces Jeux d'hiver. La montagne n'est qu'un paysage, un décor, en effet, pour des images télévisuelles, mais c'est pas du tout un territoire dans lequel on va essayer de s'adapter. C'est plutôt un territoire qu'on va adapter, qu'on va structurer, qu'on va aménager, qu'on va bétonner pour continuer à faire comme avant.
Donc, oui, allez-y.
Et donc, pour tout ça, bien évidemment, il faudrait un débat public, parce que c'est vraiment très pauvre d'enfermer la montagne dans cet artifice. Et en effet, la société civile, Montagne Wilderness, d'autres associations, un collectif citoyen aussi, France Nature Environnement, ont saisi des tribunaux administratifs, ont saisi l'ONU pour dénoncer ce déni environnemental, parce qu'on parle d'un projet à plus de 2,5 milliards d'argent public. Et en effet, ce projet n'a fait l'objet à aucun moment des campagnes des régionales, n'a été dans aucun programme. Et la population alpine n'a pas été concernée, la population française non plus, alors que ça concerne aussi nos impôts et ça enferme la montagne dans une vision.
Le Comité international olympique a l'honneur d'annoncer que le 26e Jeux olympiques d'hiver 2030 sont attribués aux Alpes françaises.
Ça y est, on a gagné. Les Jeux olympiques, la candidature Alpes françaises 2030 a été validée. Les Jeux olympiques, ça doit être de la passion, ça doit être de l'enthousiasme, ça doit être de la fierté. On porte le drapeau de la France.
C'est du grand bonheur.
Une grande joie.
Très fier.
C'est un rêve de gosse, quoi.
Je pense que des jeux à domicile, ça sera énorme.
Une vraie opportunité, des vrais jeux à la maison. Et ça donne envie de s'entraîner encore plus.
Dans la foulée de Paris 2024, on va vibrer montagne, on va vibrer Alpes françaises.
Les Alpes françaises, c'était un sujet diffusé sur France 3 Région Auvergne-Rhône-Alpes le 25 juillet 2024, le lendemain de l'attribution des JO à Alpes françaises. On le comprend avec vous, l'impact des déplacements aussi de foule, on n'a pas parlé sur les lieux, mais l'impact des JO est quand même à prendre en considération pour ce qui se passe en ce moment en Italie, hein, à Milan-Cortina. L'impact environnemental a été évalué, alors je crois que même ça a été augmenté, mais j'avais noté plus de 800 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent d'environ 400 000 vols aller-retour Paris-New York, ce qui donne effectivement froid dans le dos quand même, même si il faut reconnaître que ces jeux ont la vertu de rassembler, hein, d'être quand même le sport, l'opium du peuple comme on disait, mais l'opium de tout le monde. Il faut considérer peut-être ces choses-là. Vous parliez de déni démocratique, déni climatique. On peut accuser le CIO de déni climatique?
Alors,
Guillaume Desmures.
On peut l'accuser de beaucoup de choses, mais surtout, ce que je disais à l'instant, c'est que lui, son objectif, c'est d'organiser un événement sportif. Donc, il lui faut un pays qui soit prêt.
Où que ce soit, parce que la Chine, en 2022, avait déjà suscité beaucoup d'articles, quand même, qui dénonçaient les conditions, ces espèces de bandes de neige artificielles au milieu de collines complètement désertes. On se souvient de Sochi, en Russie, en 2014, pour d'autres raisons, Corée du Sud. On peut les aligner ces dernières années quand même, les JO problématiques.
Alors, effectivement, ces dernières années, alors ça a été quand même un traumatisme, ces JO, en tout cas d'un point de vue visuel. Les JO de Pékin, les JO d'hiver en Chine, on se demande mais qu'est-ce que c'est, il n'y a pas de station de ski, on a des bandes de neige dans des collines montagneuses, enfin c'était quand même très très surprenant. On a vraiment commencé à se poser des questions. Et puis évidemment Sochi, où là on a explosé tous les records de coûts. Alors il faut savoir que les Jeux Olympiques en moyenne coûtent in fine deux fois plus cher que le budget prévisionnel en moyenne. Sochi a complètement fait exploser ça. C'est plus de 20 milliards. Eric, tu me confirmes, c'est plus de 20 milliards d'euros. Bon, on se retrouve dans une situation qui est un peu similaire à celle qu'ont connue les Jeux Olympiques à la toute fin des années 70. Il y a deux Jeux Olympiques qui ont été assez traumatisants à cette période. C'était d'abord les JO de Montréal, qui ont battu le record de dépenses. Montréal qui a fini de payer ses JO au milieu des années 2000. quand même. JO de 76. Et puis les JO de Denver, 76, les JO d'hiver qui ont été attribués à la ville du Colorado en 1970, et deux ans plus tard, un référendum dit « nous ne voulons pas dépenser de l'argent public dans ces JO » et le CIO les épreuves à Innsbruck.
Et à cette époque, il n'y avait pas les Jeux paralympiques, si je ne m'abuse.
Alors, il n'y avait pas les Jeux paralympiques, et puis surtout, le modèle économique était différent. Il n'y avait pas de pool de partenaires, de sponsors. Et puis arrivent les JO de 84 à Los Angeles, et là Los Angeles dit au CIO, écoutez, il y a une crise au niveau des JO, plus personne ne les veut parce qu'on a vu à quel point ça coûtait cher, hein. L'argent public est indispensable au modèle économique des Jeux Olympiques. Le CIO ne perd jamais. Il demande au pays d'assumer les dépassements de budget. C'est l'objet de la lettre de garantie signée par l'ex-premier ministre Michel Barnier de octobre 2024, où c'est écrit noir sur blanc que l'État s'engage à assumer les dépassements de budget.
Quelle que soit la situation d'endettement des États.
Et Los Angeles dit, écoutez, messieurs, mesdames du CIO, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autres candidats, nous allons organiser ces JO à nos conditions. Donc Los Angeles fait passer une loi interdisant à la ville de dépenser le moindre euro d'argent public dans ces JO. Ils utilisent des infrastructures existantes et ils créent ce pool de partenaires, de sociétés sponsors. Et ce sont les seuls, à ce jour, JO qui ont dégagé du bénéfice. Donc nous aurions pu, pour terminer, avec les JO 2030, dire au CIO, écoutez, comme pour Los Angeles en 84, nous sommes les seuls, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas d'autres candidats, nous allons faire ces Jeux Olympiques à notre façon, pour le bénéfice aussi de notre territoire. Or, ça n'est pas ce qui s'est passé.
Ça ne s'est pas fait comme ça, avec une candidature qui n'a pas été construite avec les élus territoriaux, avec les citoyens. Nous allons en parler dans un instant, mais une candidature qui suscite quand même beaucoup d'espoir et on va le comprendre, notamment en matière d'infrastructure.
Vétuste, cet axe est l'un des plus empruntés des Hautes-Alpes.
Il faut savoir quand même que sur cette route, sur la 942, c'est l'accès direct, sortie de l'autoroute A51, en direction de toutes les stations du nord du département.
Giratoire, élargissement, ces 20 km de départemental vont bénéficier d'aménagements majeurs.
Ce qui va être fait là, c'est un ballon d'oxygène en direction du nord du département. Le ballon d'oxygène vient aussi des JO, il faut être clair. Le ballon d'oxygène vient des JO. Si on n'avait pas 55 millions de crédits qui viennent des JO, eh bien non, on ne travaillerait pas là-dessus.
Alors ici, la pluie ne douche pas l'enthousiasme de l'inauguration du tout premier chantier des JO.
La participation financière de l'État et de la région à hauteur d'environ 55% vont permettre au département de réaliser ces 40 millions d'euros d'investissement dans un délai beaucoup plus court parce qu'on s'est engagé à faire ça en 2026, 2027, 2028 et 2029. 4 ans devant nous pour réaliser l'ensemble des opérations qui sont prévues sur cet itinéraire.
Un soutien de l'État et de la région qui profitera également aux ferroviaires. 350 millions d'euros sont promis pour rénover la ligne et notamment rallier Marseille à Briançon en 3h30, soit une de moins qu'aujourd'hui. Briançon, futur village olympique, où l'on se prépare aussi à de grands travaux.
Ça a été une excellente surprise et qui met un focus sur Briançon, un focus sur les Alpes françaises et qui permet de regarder les prochaines années avec un petit peu plus de sérénité et une dynamique encore plus forte que celle qu'on anticipait déjà.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Reportage diffusé sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 7 janvier 2026. Des réactions des uns et des autres, Éric Adamkiewicz, à ce reportage. Est-ce que vraiment ces investissements vont être à la hauteur des espoirs en si peu de temps?
Alors, la question du calendrier est extrêmement importante. C'est-à-dire que si on était resté sur un calendrier 2034 ou 2038, on aurait eu le temps de faire les travaux. Là, ça veut dire que, notamment dans le cas des Hautes-Alpes, ils vont être dans les travaux pendant 4 ans. L'effet d'éviction va jouer. C'est-à-dire que, contrairement à ce que certains imaginent, forcément, ça va impacter l'accès à toute la région, à toutes les stations, y compris celles qui ne sont pas olympiques. Parce que les travaux vont être présents, parce que ça va limiter les déplacements. Je voudrais juste aussi évoquer la question du train. C'est que les travaux qui n'ont pas été faits sur le train pendant des années, aujourd'hui, c'est quasiment le miracle qui arrive. Mais on ne va pas décarboner la ligne. On ne va pas électrifier toute la ligne puisque les tunnels sont trop petits. Et en 4 ans, ce n'est pas tenable. C'est-à-dire qu'on va avoir des chantiers absolument colossaux, certes, qui vont peut-être
démarrer,
oui, et on commence déjà à avoir des alertes en disant, bah, peut-être que les travaux seront finis après les Jeux. Donc, ça, c'est problématique. Et puis, on a, sur le cas de Briançon, un cas d'école assez important, c'est le Fort des Têtes. On part d'un projet à plus de 296 millions d'euros pour reconfigurer un fort Vauban en cité hébergement. Alors, village olympique, je vois pas tellement personnellement l'intérêt de mettre un 4 étoiles au milieu qui est censé permettre de développer le 4 saisons à Briançon. Ils en ont déjà ouvert un il y a pas longtemps. On est sur un développement tous azimuts et qui risque, dans ce fort classé à l'UNESCO, avoir d'énormes problèmes de conception dans un délai aussi court. Et je pense très sincèrement que pour que le budget total, qui aujourd'hui est autour de 4 milliards d'euros quand même, parce qu'à chaque fois on prend le COJOP plus la Solideo, mais on oublie de parler des services publics qui vont être mis à contribution. On parle pas que des heures du préfet qui est focalisé sur les Jeux, mais l'intégralité des services publics, de la sécurité, des hôpitaux.
4 milliards estimés là.
On est à environ 4 milliards.
Et on sait que ça double de toute façon
à
la fin.
Et ça risque d'augmenter. Et ça ne sera tenable que si une partie des projets sont annulés, de mon point de vue. C'est-à-dire si on arrête soit le délire de la patinoire de Nice ou une partie du Fort des Têtes.
Mmh. Oui, parce que ce sont des jeux quand même très politiques. Hein. Il faut l'avouer, Guillaume Desmurs, rapidement.
C'est l'origine de cette candidature. C'est clairement une candidature politique. Laurent Wauquiez, qui était à l'époque le président de la région Rhône-Alpes, a dit d'ailleurs, c'est lui-même qui l'a expliqué dans une interview au Point, nous sommes appelés avec Renaud Muselier, président de PACA, et on s'est partagé les épreuves, c'était un coup de fil d'un quart d'heure.
Et s'ajoute donc Christian Estrosi, hein, président délégué de la région PACA et maire de Nice, dans tout cela, dans ce dossier ficelé en quelques mois, comme vous l'avez bien précisé.
Mal ficelé, c'est bien le problème.
Un message pourtant prometteur de la part des promoteurs de cette candidature, puisqu'il parle de beauté du sport, de trêve olympique, de retombées économiques, d'aménagement du territoire, de passion, de ferveur populaire et des jeux durable. La durabilité, le CIO ne demande aucune étude de durabilité réalisée sur ces grands événements.
Il y a une étude d'impact, oui, qui a été commanditée par le CNOSF et qui est sous cloche depuis juin 2024. Interdit de diffusion. Donc on attend l'étude d'impact économique et environnemental. Le CNOSF a toujours refusé de le sortir. Il faut dire qu'il a été réalisé en moins de 2 mois, cette étude d'impact. Donc,
Fiona Mill.
Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Italie, ça en dit long aussi sur les promesses pour la France. Ces Jeux de Cortina, ils ont été annoncés comme étant des Jeux les plus responsables possibles. Aujourd'hui, les 60% des projets ont fait l'objet de dérogations au processus environnemental, donc n'ont pas fait l'objet d'évaluation environnementale. Ce sera la même chose pour les JO de 2030 au regard des délais. Ces jeux, ils incarnent vraiment une ambition du moins 10 ans environnementale. Et ils sont pas du tout construits dans une optique de transition et de servir les territoires, sinon on les aurait pas du tout pensés comme ça. En effet, ce sont des jeux politiques où on essaye de justifier avec un beau terme qui est le terme d'héritage des soi-disant retombées positives pour les territoires. Moi, la seule retombée concrète que je vois pour les territoires de montagne, c'est un endettement, c'est une hausse du prix au mètre carré. On le sait, dans toutes les éditions des Jeux, ça a conduit à une hausse du prix de l'immobilier dans des territoires où c'est déjà très tendu, où c'est très compliqué de se loger. Et c'est aussi des grandes disparités entre les territoires de montagne. Aujourd'hui, soyons sérieux, les dépenses publiques, elles doivent financer la transition des territoires de moyenne montagne. Elles doivent pas financer Courchevel, La Plagne ou Serre-Chevalier.
Il n'y a pas possibilité de réutiliser les infrastructures, les équipements sportifs. Et il faut toujours ajouter du béton, du macadam. Le message pour JO 2030, c'est neige et chalet. Hein. Là, on est peut-être plus sur pelleteuse, toupie et tronçonneuse, comme vous le disiez, Guillaume Desmurs. Mais Fiona Mill, je vous laisse continuer.
Oui, on est déjà à 40 projets d'infrastructures autour de ces jeux, des projets d'immobilier, des projets...
Du neuf tout le temps. Pas de réhabilitation.
Non, non. Là, on parle de neuf, de projets, de nouveaux projets, parce que c'est ça qui l'objectif, c'est quand même de la rentabilité financière pour certains, dans certains territoires. Et on n'est pas du tout dans des projets qui vont servir, en effet, la réhabilitation de logements pour des habitants à l'année. Il y aura quelques projets de saupoudrage, mais ça s'arrête là. Moi, je suis pas fière que l'argent public il serve à agrandir des routes à l'heure où on a surtout besoin de se passer de voiture en montagne. Enfin, et d'ailleurs, même, je pense à Albertville. À Albertville, il y a eu des navettes pendant les Jeux d'Albertville. Ce qu'on retient d'Albertville, c'est les autoroutes. Parce qu'après Albertville, après les Jeux, les navettes, elles se sont arrêtées. Enfin, moi, je vois exactement la même chose pendant les Jeux de 2030. Par contre, quand on vit au quotidien en montagne, oui, on aimerait bien se passer de la voiture individuelle. Mmh. Mais les Jeux, ils ne vont pas le permettre.
Et c'est quand même un point intéressant parce que ça interroge aussi la politique de ZAN, la zéro artificialisation nette. Est-ce que ça veut dire que les JO bénéficient d'une loi d'exception olympique par les États finalement? Qui veut répondre?
Bien sûr.
Eric Adamkiewicz.
Ce week-end, j'ai écouté Jean-Michel Arnaud, qui est le sénateur des Hautes-Alpes et qui était en charge de la commission mixte paritaire. Et il était sur un volet purement, enfin, anecdotique, hein. Qui concernait le monde agricole, il était sur le problème de la surtransposition des normes européennes pour l'agriculture. Et je me suis dit, c'est assez bizarre quand même. Il est outré que les lois européennes qui sont décidées en l'Assemblée européenne qui est élue, fassent l'objet de critiques, comme toute décision d'une assemblée. Mais par contre, quand une association de droit suisse, avec des membres qui sont cooptés, qui organisent tous les deux ans ce que certains pourraient appeler un rallye entre eux, pour sous prétexte de faire des épreuves sportives, imposent des normes et font une loi, et font voter une loi par des parlementaires. À noter d'ailleurs que ni les sénateurs ni les députés n'ont eu accès au rapport de l'inspection générale des finances, qui en a fait 4, pour indiquer les alertes au niveau budgétaire. C'est-à-dire qu'on a des élus qui n'ont pas eu accès aux documents et qui ont voté le principe d'une loi qui s'assoit sur le droit commun français pour faire plaisir à une association de droit suisse. C'est quand même assez étonnant. Et ce sont les mêmes qui vont nous expliquer que les lois européennes, quand elles reviennent chez nous, franchement, faut pas les appliquer. C'est un petit peu paradoxal.
Guillaume Desmurs, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, effectivement, la loi olympique a été votée par le Parlement français à la demande du CIO. C'est une des conditions qui a été donnée par le CIO pour l'attribution de ces Jeux. Est une loi d'exception pour les normes environnementales, pour le droit de l'urbanisme, le code de l'urbanisme, pour accélérer toutes les procédures et les faciliter. Et puis aussi, d'un point de vue fiscal, puisque dans la loi olympique, il y a un certain nombre de défiscalisations. On enlève les impôts sur un certain nombre d'acteurs liés aux Jeux Olympiques. Donc c'est une vraie loi d'exception.
Alors, je reviens sur un petit point à l'utilisation de neige de culture, hein, puisque vous dites que finalement, c'est devenu la norme aujourd'hui. C'est quand même de la ressource en eau. Oui. Stocké, pompé à haute pression avec de l'électricité, du froid, etc. Enfin, c'est quand même pas bénin à l'heure où la question justement de l'eau et de l'électricité est prégnante dans la société.
C'est exactement ce qui s'est passé pour les Jeux de Pékin, puisque ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de chute de neige, et donc l'eau venait par aqueduc. Ils ont amené l'eau par aqueduc. Nous, on n'a pas encore ce problème-là. Je dis pas encore, puisque si les Jeux devaient continuer d'être organisé dans les Alpes, qu'elles soient françaises, autrichiennes, suisses ou italiennes, dans les années qui viennent, le problème de la ressource en eau va se poser.
Et il n'y a pas d'études là non plus sur les conséquences sur les écosystèmes, l'environnement, au fil des saisons, parce que quand même, on retient de l'eau qui normalement s'infiltre dans les sols et les sous-sols.
Et qui va s'évaporer en partie, parce que quand vous êtes avec une retenue collinaire, une partie de la ressource en eau s'évapore en raison de la masse d'eau. Donc en fait, on a beau dire que ça revient après dans la nature, on a une partie de cette eau qui va manquer. Et dans une période où les précipitations vont être très irrégulières, ça risque de poser un gros problème.
Dernier point avant de passer à la deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, donc, on comprend que les fondements de l'économie des montagnes ne peuvent plus reposer sur la potion magique, hein, tourisme, immobilier, ski alpin. La Cour des comptes a publié un rapport éclairant en février 2024 qui a expertisé 52 stations de France. Que dit ce rapport par rapport à justement au modèle économique du ski français? Et est-ce qu'il y a des recommandations?
Ce rapport, Ce rapport, il montre vraiment que l'économie du ski aujourd'hui en France est sous perfusion en matière d'argent public, et la Cour des comptes alerte sur la maladaptation au changement climatique. Et si je reprends l'exemple de l'enneigement artificiel, là je pense au massif des Vosges, à la station du lac Blanc. Le plan régional d'adaptation au changement climatique a été voté et est clair, il ne faut plus investir dans de l'enneigement artificiel pour le massif des Vosges. Qu'est-ce qui a été voté cet hiver ? 100 000 euros pour l'enneigement artificiel de la station de ski du lac Blanc. Voilà, on continue dans ce modèle qui est une fuite en avant vers une impasse.
On maintient un système sous perfusion, c'est ce que vous dites.
Totalement. Et en fait, aujourd'hui, de nombreuses stations de basse et moyenne altitude sont en train de fermer ou de réduire leur domaine skiable pour des questions climatiques évidentes, mais aussi pour des questions financières. Tout simplement parce que des communes, des communautés de communes sont en train de s'endetter pour faire perdurer une activité qui ne peut pas durer. Donc à un moment, quand on est responsable, on se dit, mais si je dois mettre de l'argent public dans une école, dans mes services à la population ou dans le ski, il y a peut-être des choix à faire. Et ce rapport de la Cour des comptes, en cela, il a été quand même une petite bombe dans le milieu du ski.
C'est intéressant de voir que, oui, d'ailleurs, ce rapport, en 2018, la Cour des comptes avait fait un rapport qui était quasi identique et un petit peu moins alarmiste, mais n'avait pas eu d'effet. Alors que là, ça a été quand même, ils se sont fait tirer dessus à boulet rouge. Et quels que soient les acteurs, tous les acteurs économiques de la montagne, et y compris les présidents et présidentes de région, puisque Carole Delga, en Occitanie, a aussi tiré à boulet rouge sur ce rapport, c'est qu'en fait, le problème de la maladaptation, c'est surtout que on ne sait pas comment sortir du système et faire le deuil d'un modèle économique. On n'a pas envie de le faire et c'est pas simple.
Alors que des solutions et des alternatives existent, nous allons en parler dans la deuxième partie d'émission. Après avoir écouté votre choix musical, Guillaume Desmurs, vous avez choisi Bertrand Belin, La Béatitude.
Oui, Bertrand Belin, qui a une vie assez incroyable et qui est peut-être l'un des rockers les plus littéraires.
Je me taille des costards. Me donne des noms d'oiseaux sous l'empire de l'état vivant, moi-même sur le dos. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour. Ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé des rangs de la béatitude, faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience, butiner les fleurs du mal, avaler des sabres, des couleuvres. J'ai eu des périodes, mais c'est la dernière chance des dieux. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour. Mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonfler les rangs de la béatitude, faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience.
C'était La Béatitude, chantée par Bertrand Belin, et c'est la suite de Deux causes à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture, en direct. Et en cette saison des Jeux Olympiques d'hiver à Milano Cortina, et alors que se profile pour 2030 ceux qui auront lieu dans les Alpes françaises, nous questionnons l'état de la montagne, la durabilité de ces événements et la capacité des villes à les organiser. Les JO d'hiver ont-ils encore un avenir? Réponse avec nos trois invités, Guillaume Desmures, journaliste, écrivain, conférencier, auteur notamment d'une histoire du ski et du livre Pour la montagne, édité chez Glénat, sans oublier Le crépuscule des Jeux, paru chez Paulsen. Fiona Mill, présidente de Mountain Wilderness France. Vous êtes aussi autrice du livre Réinventons la montagne, Alpes 2030, un autre imaginaire est possible, un livre paru aux éditions Faubourg. Et avec nous, Eric Adamkiewicz, maître de conférences en management du sport et développement territorial à l'Université de Toulouse, spécialiste des problématiques liées aux activités sportives en montagne.
Énorme. L'immense championne, on pourra tout dire, tout écrire sur Julia Simon, mais on ne lui enlèvera pas une chose, c'est une immense championne, alors que la cloche de la renommée va sonner, les Français vont partir pour remporter le titre olympique. Ce sera une médaille d'or symboliquement pour un relais mixte. L'équipe de France est championne olympique. Bravo mesdames, bravo messieurs. Perrault, Guillaume Maillet, Jean Monod et Simon sont sur le toit de l'Olympe.
Le toit de l'Olympe, les vertus des JO, c'est aussi ces moments de communion populaire, faut pas les oublier parce qu'on est tous aussi fans, il faut avouer, hein, de ces moments de cohésion et de ces grands moments sportifs. Et on imagine aussi la difficulté pour ces sportifs-là de se positionner. C'est à la fois une carrière et puis c'est en même temps ne pas forcément accepter l'évolution de leur sport, mais Faire le choix doit être assez difficile. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec certains d'ailleurs, Fiona Mill?
Moi, dans le cadre de Réinventons la montagne, bien évidemment, j'ai pris le temps d'échanger avec plusieurs athlètes. Je pense à Florence Masnada, Marie Dorin ou aussi Stéphane Passeron. Et les trois me disent, mais si c'était à refaire, bien évidemment, je le referais. En fait, ça m'a fait tellement vibrer. Ça a été ma vie et ça a été des émotions tellement fortes. Par contre, c'est plus possible de continuer dans ce même sillon. Et Stéphane Passeron, j'aime beaucoup. Il dit en fait, c'est aussi l'esprit sport, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est qu'il faut qu'on apprenne à donner le meilleur de nous-mêmes, parce que les défis en montagne, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, le fait qu'il faut réinventer le modèle, en effet, ça nécessite d'y aller avec conviction, avec force, à se préparer comme on se prépare à une épreuve des JO. Mais aujourd'hui, il arrive à partager le fait que l'amour de la montagne, l'amour du sport, avec ses enfants, avec sa famille, il fait autrement. Et je pense que c'est ça, il faut réussir à renoncer peut-être à certaines choses, mais en fait, la beauté du sport, la beauté de la fête, on peut réussir à la trouver ailleurs.
Oui, et l'imaginer autrement ou l'amener à une transition aussi. Guillaume Desmures, dans votre livre Une histoire du ski, je crois que ça doit être le dernier moment, presque la conclusion du livre. Vous parlez d'un athlète exceptionnel, un sportif, Candide Tovex, et ça s'intitule « Skier sans neige ».
Oui, avec Gilles Chapaz, avec qui on a écrit ce livre, on a imaginé terminer en presque comme une boutade, mais ça ne l'est pas vraiment, puisque Candide skie vraiment sur autre chose que de la neige, hein, c'est un de ses derniers films. Mais ça pose surtout la question de cette culture de la montagne. Et Fiona l'a très bien dit, on est montagnard, on a grandi en montagne, j'ai grandi en station de ski, je sais l'importance qu'ont les Jeux Olympiques et les compétitions de ski, le ski alpin, les compétitions de ski de fond aussi, à quel point c'est important pour nous. J'étais bénévole au JO de 92 et je me souviens très bien, jeune collégien, de la fierté qu'on avait à avoir ces épreuves. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé et on voit les coulisses aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les poubelles derrière le restaurant. Et on ne peut plus faire la fête avec autant d'insouciance. Parce qu'on sait ce que ça coûte au territoire, on sait ce que ça coûte aux habitants. Et donc, bien sûr que la fête est belle. Les JO de Paris étaient magnifiques.
Mais il y a un petit malaise.
Quelle est la facture à payer? Est-ce que collectivement, nous sommes prêts à payer cette facture? C'est la question qu'on devrait se poser.
Et Candide Tovex, il skie sur quoi?
Alors, Candide Tovek, il skie quand même globalement sur de la neige, mais il avait fait un film où il skiait sur du sable, de l'herbe, des cailloux. Et en fait, il réinventait
la pratique.
Oui, puis ce qui était étonnant, c'est qu'en fait, il avait la même gestuelle, il avait le même plaisir. Et le ski ne disparaîtra pas dans les montagnes. Ce qui est en train de disparaître, c'est une façon d'organiser l'économie. C'est une façon d'organiser l'économie autour d'un domaine skiable, de la neige industrielle indispensable et de l'immobilier. Et ça, c'est hérité des 30 Glorieuses des années 60. C'est ça qui est moribond, c'est ça qui est en train de disparaître. Et c'est ça que les JO, justement, essayent de faire durer le plus longtemps possible. Mais on va toujours skier et la montagne sera toujours là.
Alors, ce que vous dites les uns les autres, c'est vraiment que ces JO 2030 pourraient être une occasion pour se pencher justement sur l'avenir des stations de ski en France, des territoires de montagne sous tension. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qui aussi peut-être est en train de se réaliser localement ? Fiona Mill et ensuite Eric Adamkiewicz.
Dans l'idée justement de réinventer la fête, moi j'ai envie de vous partager une initiative là qui vient de se lancer, qui s'appelle Les Montagnardes, qui s'autorise justement à repenser les événements sportifs en montagne, à valoriser aussi la montagne dans toutes ses dimensions, et même j'ai envie de dire les montagnes, pas que les Alpes, tous les massifs français, la montagne sportive, la montagne culturelle, la montagne nature, une fête qui pourrait aussi valoriser toutes les initiatives qui existent déjà en montagne, mais qui sont pas assez soutenues. Et puis finalement, une fête de la montagne qui se résume pas à la descente skium de Courchevel, mais qui est une fête bien plus large. Et ces montagnardes, elles viennent de se lancer avec des athlètes de haut niveau.
Qui proposent quoi? Des événements festifs?
Des habitants de toutes les montagnes. Et une fête de 6 mois. En 2030, sur tous les massifs, qui soit pensé par les habitants des territoires de montagne. Donc, on se donne rendez-vous là le mois prochain et pendant tous les mois qui viennent pour organiser des événements en 2030 qui soient respectueux des montagnes, respectueux des limites planétaires. Parce qu'en fait, oui, on peut s'autoriser à réinventer le sport, on peut s'autoriser à réinventer les fêtes. Il faut juste être créatif. Et je pense que de l'énergie et de l'envie dans les territoires de montagne, il y en a beaucoup. Mais des fois, il faut réussir à sortir des carcans.
Eric Adamkiewicz, on va basculer à ce stade de l'émission vers les montagnes et sortir un petit peu du giron JO. Mais malgré tout, est-ce que, avec votre expertise, vous pensez que les JO auront bien du mal à se réinventer ou à prendre le virage ?
On a oublié que dans Jeux Olympiques, il y a jeu. Donc le jeu avec les éléments, le jeu avec les performances sportives. Je pense à l'escrimeur Canon qui avait été au JO de Tokyo et qui a dit moi je suis arrivé par hasard et en fait j'ai été champion olympique parce que j'ai joué, j'avais moins de pression. Tout à l'heure on évoquait la neige de culture pour les courses de ski alpin. C'est assez paradoxal de se dire s'il neige, c'est la catastrophe, alors qu'en fait on pourrait jouer avec ça. Alors ça change l'activité, ça change la relation et la manière dont aussi les athlètes se préparent. Mais on oublie les athlètes. Les Jeux Olympiques aujourd'hui, c'est une organisation. Le prétexte, c'est d'organiser des jeux sportifs qui n'ont plus rien de véritablement espace de jeu, mais espace de performance. Mais si on veut retrouver l'esprit du jeu, il va falloir jouer avec l'environnement, mais surtout en le préservant. En le préservant et en limitant... ne serait-ce que des coûts qui sont assez surréalistes. Quand vous remettez 43 millions dans une piste de bobsleigh, qui, en 92, a coûté l'équivalent de 59 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on nous dit que 95% des équipements pour 2030 sont là. Oui, mais on va remettre une pseudo-rénovation pour plus de la moitié du coût initial. Pour moins de 100 pratiquants français. On n'est pas sur des investissements, nous sommes vraiment sur des coûts à perte. Pareil pour les tremplins de Courchevel. Après, il y a la méga patinoire de Nice qui est vraiment un projet annoncé à 20 millions et qui en est maintenant à 180, hors aménagement provisoire dans le stade de Nice. Mais si on veut retrouver un esprit des Jeux, un esprit autour de ce qui est vendu, la fraternité, la rencontre des peuples, reconstruisons quelque chose sur des territoires adaptés, y compris en trouvant de nouvelles activités. J'ai été absolument sidéré du discours sur l'arrivée des nouvelles disciplines, des sports additionnels, qui intéressent globalement 0,002% des spectateurs des Jeux Olympiques. On a dit, ah, il va y avoir du cyclo-cross, mon Dieu, hérésie, il faut de la neige et de la glace. En disant, alors que le cyclo-cross, c'est une pratique hivernale. Mais c'est du vélo.
Et on pense au ski alpinisme, qui, dans la pratique, au quotidien, a des vertus, pour le coup. Mais là, entrer dans l'enceinte des Jeux Olympiques, ça devient tout autre chose, Guillaume Desmureaux.
Et oui, et c'est ce à quoi on assiste depuis longtemps. Hein. On se souvient du ski freestyle, et notamment du ski de bosse. On se souvient ensuite, ça c'était le ski freestyle des années 70, et ensuite le ski freestyle qui est rentré, New School, qui est rentré aux Jeux Olympiques en 2014, le snowboard et maintenant le ski alpinisme. On voit à quel point, quand un sport devient olympique, il se stérilise totalement. Et ça, on l'a vu depuis 30 ans. Il perd de sa sève créative, il perd justement de la notion de jeu. Et la notion de jeu dans l'histoire du ski, elle est essentielle. Le ski, c'est du jeu avec la gravité. Le ski, c'est quoi? C'est un déséquilibre contrôlé sur des pentes enneigées. C'est quand même...
Avec une neige naturelle.
Avec une neige,
si possible
naturelle, c'est beaucoup plus agréable. C'est quand même extraordinaire comme pratique. Et c'est d'où ça... On sait que l'homme skie depuis la préhistoire, avec des outils d'ailleurs qui n'ont pas beaucoup changé fondamentalement. Donc le ski, c'est du jeu, et c'est vrai que on voit bien qu'une discipline qui devient olympique perd ça, et elle se stérilise.
Alors, je repars sur le rapport de la Cour des comptes et j'en donne un petit extrait. Au regard du changement climatique, les politiques d'adaptation menées par les acteurs de la montagne sont en deçà des enjeux environnementaux et socio-économiques. Regardons plus globalement l'avenir de ces sports d'hiver et vous allez nous dire ce que vous préconisez. Après avoir écouté un extrait de reportage diffusé sur France 24 le 11 février 2025, il s'agit de regarder aussi du côté des différentes stratégies de stations, soit s'acharner, soit s'endetter, ou se transformer.
Les patatines, c'est comme la raclette, mais c'est présenté différemment. On va retrouver des pommes de terre, fromage fondu, de la charcuterie.
En France, 120 000 emplois indirects dépendent du ski. Cette affaire de famille sur 3 générations est le dernier commerce de la station. La fermeture des pistes est une menace.
Pour nous, ça a été un crève-cœur. Mais en aucune façon, nous nous sommes posé la question de fermer. Bien au contraire. On avait deux solutions, soit baisser les bras, soit se relever les manches. Et c'est ce qu'on a fait, nous avons relevé les manches. On a fait des travaux dans l'automne, en même temps qu'ils nous ont mis la sentence, qu'ils nous ont dit « on va vous fermer la station de ski ». Nous, on a dit ben, « fermez la station, on va rebondir ».
Objectif, attirer les skieurs des autres stations de la vallée après leur journée de glisse.
Sur les vacances de février, tous les soirs, on va avoir une animation. Les lundis soirs, c'est la balade au Lampion. Hein. C'est se balader en pleine nature avec des accompagnateurs et se retrouver, comme si on pourrait dire, perdu de nuit en pleine montagne.
Depuis le Covid, de plus en plus de vacanciers sont en quête de nature et de tranquillité. Certains se détournent aussi des très onéreux sports d'hiver, faute de budget.
Le tout-ski pendant une semaine de vacances, quand vous êtes une famille à 4, 5, 6 personnes, c'est compliqué. Et du coup, on voit bien qu'il y a des gens qui vont venir simplement prendre le bol d'air, venir cueillir les champignons, faire une balade... Profiter de la nature qui est là, qui est belle et qui leur tend les bras.
Réinventer les territoires de montagne, les pratiques sportives, c'est ce qui se fait peut-être déjà aujourd'hui?
Oui, ça se fait bon an, mal an, et puis parce que les territoires ont besoin de vivre. Donc s'il y a de la neige, on fait du ski. Quand il y a moins de neige, on s'adapte. Et d'ailleurs, mais les clients l'ont bien intégré, eux, y compris dans leurs réservations, puisque 74% des réservations sont faites avant le 1er novembre. Donc c'est pas lié à la chute éventuellement de ski.
Oui.
Donc c'est par rapport aux destinations, par rapport à ce qu'ils leur est proposé, par rapport aux tarifs. Faut bien appeler un chat, mais des offres sur des activités diverses qui renouent un petit peu avec l'origine du tourisme, hein, qui était aussi du contemplatif. La difficulté, c'est, on parlait du deuil tout à l'heure, c'est le deuil d'un modèle économique extrêmement rentable avec le ski. on ne trouvera pas quelque chose qui sera aussi rentable et donc il va falloir construire et on arrivera à construire la montagne. Et les montagnards sont toujours des populations très adaptables.
Fiona Mill.
Oui, si on retourne sur la saison d'été, on a constaté dans tous les massifs français une hausse de la fréquentation en montagne, par exemple dans les refuges, dans les milieux aussi non aménagés, pas dans les stations de ski. Hein. Dans les stations de ski qui sont pas encore des stations de montagne, il y avait pas foule. Par contre, dans tous les autres territoires de montagne, là, on sentait un engouement à la fois une hausse de la fréquentation qui peut avoir des enjeux, bien évidemment, sur la préservation des espaces naturels, mais aussi une diversification de la fréquentation, de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes aussi ne venant pas forcément des catégories socio-professionnelles plus. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. C'est ce besoin de nature, ce besoin de montagne qui s'explique. Moi, je travaille dans un gîte d'étape à 1200 mètres d'altitude. Tous les week-ends, j'accueille des jeunes qui veulent faire leur premier bivouac ou leur première rando. Et il y a cet engouement pour la montagne. Par contre, à aujourd'hui, on met pas l'argent public là-dessus pour accompagner ce besoin nature et ce nouvel envie. Quand on parle diversification, on met encore de l'argent sur des luges d'été, sur des pas dans le vide, sur des tyroliennes, bref, sur de l'artifice. On reste encore dans cette montagne artificielle. Alors que la montagne, elle peut apporter tellement plus. Elle peut véritablement être un territoire d'accueil.
Soutenir des nouveaux métiers, changer les politiques de développement territorial, relancer l'artisanat, l'agriculture, les activités de service, c'est ça. Et puis faire en sorte peut-être qu'on encadre un peu à la manière des Suisses, la part des résidences secondaires dans le parc immobilier.
Alors ça, c'est déterminant, notamment dans les stations de ski, les communes de stations de ski qui, je le rappelle, perdent des habitants depuis 10 ans et qui ont entre 75 et 90, voire plus dans certaines stations, de résidences secondaires. L'enjeu pour demain, ça va être de recréer une vie à l'année sur ces territoires. Vie à l'année qui est en train de s'effriter aujourd'hui. Notamment à cause de l'augmentation des prix du foncier et de l'immobilier. Donc l'un des enjeux, ça va être recréer une vie à l'année. Ça va être d'intervenir sur ces résidences secondaires et de les transformer ou de les limiter, comme l'ont fait les Suisses avec la loi Weber, comme le font aussi les Autrichiens. Et puis le troisième point de travail, et tout ça c'est à notre portée, on sait faire techniquement, on a l'argent, on a le savoir-faire, on a la volonté, on a l'énergie. Le troisième point, ça va être la mobilité. Et je discutais avec un élu d'une Comcom qui accueillera a priori, puisque la liste des sites olympiques n'est toujours pas connue, mais qui a priori accueillera des épreuves olympiques, qui me disait assez sincèrement, et je l'en remercie, qui me disait, en fait, pour la mobilité, on ne sait pas comment faire. Les JO vont pas améliorer les choses pour les habitants du territoire. C'est compliqué, la mobilité. Bon, ben là, par exemple, et quand il parle de mobilité, c'est la voiture, le tout voiture, c'est les bouchons en permanence, y compris la semaine et pas que le week-end.
On peut penser autrement.
Et donc là, on a un enjeu, on a un boulot à faire qui est très enthousiasmant pour transformer, adapter notre montagne. On sait faire, il faut qu'on s'y mette et on n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour ça.
Éric Adamkiewicz.
Ça fait plus de 25 ans que l'on sait que l'hiver, 50% des partants à la montagne, tout massif confondu, ne font pas d'activité de glisse. C'est-à-dire que la clientèle, elle est déjà là et elle fait autre chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle a le même niveau de rentabilité que ceux qui achètent un forfait et pratiquent le ski à tout vin. Par contre, ça veut dire qu'on a une offre qui est diversifiée et qui permet d'accueillir un grand nombre de clients. Pour ça, il va falloir aller plus loin. Dans certains cas, ce sont des renoncements qui sont durs. Ce qui s'est passé à l'Alpe du Grand Cerf cette année, on est un bel exemple. C'est-à-dire que on lutte pour maintenir un modèle qui est à bout de souffle, et parce qu'on manque, on manque d'aide, on manque d'autres visions, et parce qu'on reste bloqué sur le tout ski.
Comme vous dites, il faut d'autres visions. Merci à tous les trois. Merci Éric Adamkiewicz. On peut mentionner aussi la revue Horizon Public, numéro 37, janvier-février 2024. C'était sur les JO et les Jeux Paralympiques. Guillaume Desmures a conseillé vos livres Une histoire du ski, écrit avec Gilles Chapaz, et puis Pour la montagne, ces livres édités chez Glénat, ainsi que Le crépuscule des Jeux, paru chez Paulsen. Fiona Mill, votre livre s'intitule Réinventons la montagne, Alpes 2024.
2030, un autre imaginaire est possible, paru aux éditions Faubourg. Et bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui veulent en savoir plus, direction le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où vous disposez de la bibliographie, des infos, des liens, et d'autres podcasts aussi en lien avec le sujet vous attendent.